autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle avec nos confrères de la presse scientifique venus, comme chaque mois, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Avis aux amateurs. Nous sommes en direct avec Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
À la une de ce mois de novembre, ce que la science sait de la mort, sacré programme. Bonjour Philippe Hénarejos. Dans Ciel et Espace, vous nous entraînerez ce mois-ci dans l'univers des galaxies invisibles, jusqu'alors impossibles à détecter, et qui nous racontent l'origine de l'univers. Bonjour Philippe Pajot.
Bonjour.
Alors c'est l'urgence climatique qui fait la une et le dossier de la recherche ce mois-ci. Nous nous intéresserons aux travaux menés par la plateforme de recherche Futur Africa pour un avenir durable pour tous sur notre petite planète. Bonjour Thomas Cavaillé-Foll.
Bonjour à tous.
Nous découvrirons avec vous dans Science et Vie pourquoi les arbres sont nos alliés et comment les arbres pourraient bien nous sauver. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse sur Terre et même au-delà, bienvenue. Bienvenue à tous les empêcheurs de penser en rond qui s'interrogent ici comme ailleurs sur les bouleversements en cours, le basculement du monde. C'était le thème de la 3e édition des Ateliers de la pensée à Dakar, qui viennent de s'achever à l'initiative de l'économiste et écrivain sénégalais Félouine Sarr et du philosophe camerounais Achille Bembe, qui ont pour la 3e fois donc réuni penseurs, chercheurs, artistes du continent et de la diaspora autour cette année du thème de la dévulnérabilisation compliquée. Explication de Félouine Sarr, recueillie à Dakar par notre reporter Charlie Dupiot.
Donc la thématique principale, c'est les pratiques de dévulnérabilisation, avec l'idée que les groupes humains sont vulnérables de plusieurs points de vue, économiques, sociaux, culturels, symboliques, et que ces vulnérabilités-là, elles se renforcent. Et l'idée pour nous, c'est de réfléchir à comment on trouve au sein des sociétés des dispositifs et des pratiques pour les dévulnérabiliser. Pour donner un exemple, des gens qui s'occupent de sécurité alimentaire dans le Sahel et qui font face à des crises donc, alimentaires, mettent en place des pratiques donc, pour répondre à ces crises-là. Et ces pratiques, on les appelle des pratiques de dévulnérabilisation. Des gens qui s'occupent de traumas à l'issue de guerres, de crimes de masse, de génocides. Il y a aussi des vulnérabilités symboliques, psychologiques, historiques, des groupes qui ne sont pas reconnus, des minorités qui n'ont pas accès à leurs droits, qui n'ont pas accès à leur histoire, qui n'ont pas accès à un espace de représentation symbolique. La question de la restitution des biens culturels, on peut la rendre là, dans une vulnérabilité symbolique. En fait, quand on est issu d'une culture qui a créé des œuvres matérielles importantes pour se déployer dans le temps, pour se signifier, pour se symboliser, pour produire du sens, et qu'une part significative de ce patrimoine matériel n'est pas disponible pour la transmission. Toute l'avant-garde européenne du fin 19e siècle, 20e siècle, a été inspirée par la statuaire africaine. Il y a 90 000 œuvres qui sont en France, dont 70 000 au Quai Branly. Et quand vous allez dans nos musées, vous allez à peine dépasser 5 000 œuvres. Donc le déséquilibre est abyssal, il est grand. Et le fait de n'être pas en possession de traces matérielles de sa longue histoire est une vulnérabilité.
On en est donc à la 3e édition des Ateliers de la pensée. Vers quoi ça évolue, ces ateliers-là ?
Durant les premières éditions, il y avait un réel désir de se réapproprier la pensée sur nous-mêmes. La 3e édition, on l'a voulu un peu plus ouverte. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, les questions qui concernent l'archive africaine sont importantes, mais l'Afrique dans le monde, l'Afrique est le monde. Des questions beaucoup plus globales que celles qui sont des questions strictement africaines. La question climatique, elle nous concerne tous. La question de la mobilité humaine, les frontières, la défrontiérisation du monde, et qu'est-ce qu'on fait de ces flux donc, d'humains, donc comment on organise cela, comment on pense cela, c'est une question globale. La question de comment faire monde, c'est une question globale, sans être enfermé sur nous-mêmes, quoi.
Questionnement partagé donc à Dakar par Félouine Sarr au micro de Charlie Dupiot pendant les ateliers de la pensée. Le lien est sur notre page et le compte-rendu de la précédente édition de ces ateliers de la pensée, Imaginez les devenirs africains, est paru aux éditions Philippe Ray, Jim San. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, comment rendre visible l'invisible maintenant, comment traquer les galaxies les plus lointaines, dans le temps comme dans l'espace, vous nous emmenez, Philippe Hénarejos, jusque dans l'univers découvert des galaxies invisibles. C'est le dossier de Ciel et Espace, retour sur la découverte cet été de l'existence de 39 galaxies jusqu'alors invisibles, révélées par l'astrophysicien David Elbaz du CEA et son équipe. Récit de cette traque de l'invisible par David Elbaz.
Avec le satellite Spitzer, qui est un satellite américain, on avait découvert des petites taches de lumière sur le ciel à un endroit où, dans les images les plus profondes du télescope spatial Hubble, il n'y avait strictement rien. Et ces taches de lumière pouvaient être dues à tout un tas de choses. Mais depuis longtemps, on cherche la naissance des galaxies les plus massives de l'univers qui se seraient produites assez longtemps, assez loin dans le passé de l'histoire de l'univers. Et avec l'interféromètre ALMA, qui est l'outil le plus puissant pour aller chercher ces galaxies-là, on a eu la surprise de découvrir des dizaines et des dizaines de galaxies de ce type-là, des galaxies qui sont totalement invisibles au plus puissant télescope Hubble et qui se révèlent produire plus de 90% de la formation des galaxies massives au cours des deux premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers. C'est une découverte qui est profondément troublante parce que ces galaxies-là sont des galaxies adultes, mûres, massive à une époque où les galaxies étaient censées être des bébés galaxies. Et donc ça ouvre à tout un pan de nouvelles questions sur la formation des galaxies.
Tout un pan de nouvelles questions ouvertes par David Elbaz sur RFI et dans ce numéro de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos, incroyable découverte, possibilité de voir dans l'invisible, parce qu'en fait quand on remonte dans le temps, on remonte dans l'espace et vice-versa.
Oui, c'est ça, ces galaxies-là... dont David Elbaz vient de parler, se trouve à une telle distance qu'on les voit telles qu'elles étaient quand l'univers avait entre 1 et 2 milliards d'années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'univers a à peu près un peu plus de 13 milliards d'années. Donc c'est très jeune. Malgré tout, comme il l'indique, à ce moment-là, on s'attend à voir les briques qui vont faire les galaxies, comment vont se former les galaxies. Et on ne s'attend pas à voir des galaxies très, très massives comme celles qu'ils viennent de découvrir. Et là, c'est vraiment de nouveau un avantage redonné à l'observation par rapport à la théorie. Parce que les astronomes, ça fait quand même des décennies qu'ils essaient de reconstituer le puzzle, comment se sont formées les galaxies, est-ce que c'est d'abord des petits bouts qui se sont agglomérés, qui ont donné des gros, puis qui se sont télescopés pour donner des spirales ou des elliptiques, etc. Tout ça, c'est assez
C'est nébuleux. De la spéculation.
Voilà, il manque des éléments. Et là, on a un élément du puzzle, c'est-à-dire qu'il a trouvé, avec ALMA, dans une longueur d'onde qui le permettait, des galaxies qui étaient invisibles. Alors pourquoi étaient-elles ? C'est parce qu'elles ont des étoiles, elles ont beaucoup d'étoiles, elles sont très massives. Sauf que ces étoiles-là ont produit énormément de poussière. Et elles se sont entourées, ces galaxies, de véritables murs de poussière tout autour, de cocons de poussière, qui fait qu'en lumière visible, quand vous regardez avec le télescope Hubble ou les télescopes puissants comme le VLT qui font 8 mètres de diamètre, il n'y a aucune lumière qui arrive.
Ah, donc on peut rien voir, il y a l'écran de fumée.
Voilà, enfin. Et c'est pour ça qu'on les voit avec ALMA ou avec Spitzer, parce que dans ces longueurs d'onde-là, qui vont de l'infrarouge au millimétrique, eh bien, la lumière a tapé sur les poussières, les a chauffées en quelque sorte, et il y a une émission thermique de ces poussières qui est perçue dans cette longueur d'onde-là avec ces nouveaux instruments. Et donc là, on découvre tout un univers. 39 galaxies, ça peut paraître pas grand-chose sur l'univers.
Elles sont énormes, vous l'avez dit.
Elles sont très loin, mais à mon avis, c'est que le début des découvertes. C'est-à-dire que s'ils en ont 39 d'un coup, là, avec en ayant pris leur épuisette, ils ont mis leur épuisette dans l'eau, ils ressortent 39 poissons.
C'est qu'il y en a beaucoup.
C'est qu'il y en a d'autres, ils vont en trouver d'autres. Et donc ces galaxies-là vont renseigner sur le processus de formation des galaxies. Donc c'est une découverte récente, enfin récente il y a quelques mois, à l'échelle de l'astronomie c'est très récent.
Et nous, on ne mesure pas la portée, encore.
Et même les astronomes vont devoir les intégrer dans leur modèle. C'est-à-dire, maintenant il va falloir réviser. L'observation va reprendre la main, on va dire on a ça, là, on a ces galaxies-là, il va falloir en tenir compte, il va falloir trouver des modèles qui vont avec.
Ça veut dire que ça revisite complètement l'origine, enfin la formation des galaxies, la formation de l'univers.
Complètement, peut-être pas, mais en tout cas, il y a certainement des processus de formation de certaines galaxies dans l'univers qui vont devoir être revus. Alors c'est marrant parce que nous, on a fait un dossier dans l'espace, c'est 20 pages, donc c'est énorme. On parle pas que de ces galaxies-là parce que de manière concomitante, pratiquement, dans ces mois-là qui viennent de s'écouler, il y a eu une autre découverte, cette fois de 6 galaxies. pas beaucoup, encore moins, 6 galaxies qui, elles, alors, sont totalement invisibles parce qu'elles n'ont pas d'étoiles. Et pourquoi on les voit, alors ? Parce qu'avec le VLET, là, ce télescope de 8 mètres, on a réussi à voir leur lueur parce qu'il se trouve que, par le plus grand des hasards, il y a un quasar autour, pas
un
très
quasar.
Loin. Un quasar, alors, c'est un trou noir qui accrète beaucoup de matière, qui la chauffe énormément. Et il se passe qu'il y a une espèce d'engorgement quand la matière tombe dans les trous noirs, comme un peu dans un lavabo où si ça rentre trop vite, ça regorge en quelque sorte, ça éjecte le long de, on parle de jets polaires, le long des pôles magnétiques du trou noir. Et donc il y a de la matière comme ça qui est éjectée avec une grande énergie, donc ça fait des faisceaux. Et il se trouve que dans certains cas, ces faisceaux sont venus taper sur ces galaxies sombres. C'est du gaz pour l'instant, avec des étoiles qui ne sont pas encore formées. Et donc, cette interaction entre ce faisceau et cette matière crée une lumière qu'on a vue pour la première fois dans 6 cas. Et ça, on pense vraiment que c'est le modèle primordial de formation des galaxies. Alors, ça ne veut pas dire que celles-là, précisément, ces 6-là, sont primordiales, mais elles sont ce qu'elles auraient dû être si elles étaient primordiales. C'est-à-dire qu'elles sont dans un univers un peu plus vieux qu'au moment, mais c'est les dernières, si vous voulez. Les dernières ont été à être produites comme ça. Et on les voit grâce à ce concours de circonstances extraordinaires qui fait que, dans certains cas, vous avez des quasars comme ça qui envoient leur faisceau pile dans la direction, qui vient les éclairer, en quelque sorte, comme un faisceau de lampe torche, finalement.
Mais ce qui veut dire là aussi que, sans ce hasard-là, enfin, ça veut dire aussi qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas.
Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Alors, il y en a beaucoup moins. Ça a pris beaucoup de temps. Il y en avait déjà une qui avait été vue il y a quelques années. Les chercheurs, ils sont raccrochés à ceux qu'ils avaient. Un cas, c'est vraiment pas beaucoup sur tout l'univers. Ils ont cherché un peu mieux. Ils en ont trouvé 6, là, cette fois. Donc, ici, ça y est, on en tient quand même quelques-uns. On va continuer à essayer d'observer et peut-être de commencer à analyser ces embryons de galaxies. Là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est vraiment de la masse, de la matière.
Même informe. Pas des bébés galaxies, encore plus petit que ça. Quoi.
Si, c'est-à-dire qu'en termes de masse, vous avez tout ce qu'il faut.
Mais, c'est des gros bébés. Hein.
Mais les étoiles ne sont pas encore formées, ou alors très peu. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, on a vraiment, de manière parallèle, deux découvertes observationnelles qui vont alimenter tous les modèles de formation des galaxies, dont la nôtre, évidemment, parce que c'est aussi notre histoire. C'est l'histoire de la Voie lactée, de la galaxie voisine d'Andromède, qu'on essaie de décrypter là, à travers ces objets très très lointains, donc très très jeunes, dans un univers très jeune.
Affaire à suivre, donc, grâce à l'observation, grâce à ces gigantesques télescopes, l'univers des galaxies invisibles et de toutes tout ce qui est invisible à l'œil nu, c'est à découvrir dans ce numéro de Ciel et Espace avec de très belles images visibles pour le coup, dont nous avons...
Oui, on a été obligés de détourner un peu, on a pris des galaxies visibles pour le coup.
Voilà, pour pouvoir nous les montrer. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, si vous voulez en savoir plus ou en voir plus, que quelques exemplaires sont à gagner si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question, vous ouvre les portes de l'invisible avec Bruce Springsteen, Hunter of Invisible Game sur RFI.
I hold my silver-battered ditch, build me an ark, go for wood and pitch, sat down by the roadside and waited on. I am the hunter of invisible game. Well, I woke last night to the heavy clicking and clack, and a scarecrow on fire along the railroad tracks. There were empty cities and burning plains. I am the hunter. Invisible game. We all come up a little short and we go down hard. These days I spend my time skipping through the dark, through the empires of dust. I change your name. I am the hunter, invisible king. Through the boneyard, rattling black smoke, we rolled on.
down into the valley where the beast has his throne. There I sing my song and I sharpen my blade. I am the hunter of invisible. Strength is vanity and time is illusion. I feel you breathing, the rest is confusion.
Bruce Springsteen en chasseur d'invisibles sur RFI. Autour de la question comment la science infuse en ce mois de novembre dans Science et Avenir, vous soulevez, Mathieu Novak, la plus énorme des questions. Qu'est-ce que la science sait de la mort ? Des signes avant-coureurs du décès aux expériences de mort imminente en passant par les mécanismes de la mort cérébrale, on fait le point sur les connaissances actuelles des vivants sur la mort, en commençant par un peu d'humour noir signé Albert Dupontel.
Mais qu'est-ce qui se passe là ? Oh putain, je suis mort ! Oh non, il déconne pas, je suis pressé là. Oh non. Mais prenez-le, lui, c'est de sa faute à lui. Oh putain, ah, c'est sûr, maintenant je vais être en retard alors. Ah là, bravo. Là. Putain, mais prévenez les mecs, prévenez. Y'a qu'à servir alors, voilà, on se sert comme ça. Non, c'est pas possible, j'ai un mot du médecin, je supporte pas la mort. Non. S'il te plaît, tu me ressuscites maintenant. S'il te plaît, je paye assez d'impôts comme ça, tu me ressuscites, s'il te plaît. Ressuscitez-nous! Surtout moi!
Bon, en attendant qu'Albert Dupontel ressuscite, qu'est-ce que la science sait de la mort, Mathieu Novak? C'est la une et le dossier de Science et Avenir.
Oui, mais c'était très bien comme introduction, parce qu'il y a un fond de vrai là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait Albert Dupontel? Il vient juste de mourir. Et là, ces derniers temps, on s'est rendu compte que la mort, c'est pas l'arrêt cardio-respiratoire. Au moment où on vient juste... On a l'impression que c'est la mort clinique. Le cœur arrête de battre, les poumons arrêtent de se gonfler, de se dégonfler, les organes ils sont plus oxygénés. Mais ça, c'est on est encore dans une phase réversible. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'il crie. Parce que la définition de l'OMS, c'est la disparition irréversible de l'activité cérébrale.
C'est le cerveau, hein,
c'est le cerveau
qui signe la mort.
Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'entre l'arrêt cardio-respiratoire et cet arrêt définitif de l'activité cérébrale, il peut se passer jusqu'à 10 minutes.
10 minutes pour mourir. Hein,
ouais. Enfin, alors, il y a même, vous savez, on a battu il y a pas très longtemps en France, à Montpellier, un record de réanimation. On a réussi à réanimer quelqu'un 18 heures. Ça a battu le record précédent qui était de 8h42 en Italie. Donc, en tout cas, il se passe, on sait qu'en tout cas pour tout le monde, il se passe 10 minutes durant lequel.
Ni mort ni vivant.
Ouais, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que bon, c'est très difficile à étudier.
Mais on a réussi
sur des cas désespérés, avec des gens qui étaient dans les cas désespérés qui étaient en train de mourir, à étudier de façon très fine l'activité du cerveau. Et on a vu que dans les 20 secondes qui arrêtent l'arrêt respiratoire, il y a une perte de conscience et que les neurones, on pensait qu'ils se débranchaient, mais non, en fait, ils se mettent en veille. Pendant 2 à 5 minutes, ils attendent. Ils ont un peu d'énergie de réserve. Donc sur l'électrocardiogramme, il est plat, mais ça ne veut pas dire qu'on est mort. Donc il y a une phase de veille. Et après, au bout de 5 minutes, au contraire, il y a une sorte de sursaut final. Les neurones, ils relâchent plein de neurotransmetteurs. Il y a une réaction en chaîne, c'est une sorte de bouquet final. Et ils s'allument tous une dernière fois. Et c'est un phénomène qui se propage dans le cerveau à une vitesse de 3 mm par minute. Et c'est seulement après 10 minutes que le cerveau s'éteint complètement.
Donc la science découvre qu'on met 10 minutes pour 10 mourir. Au moins.
Et la façon dont le cerveau va faire ce feu d'artifice final, on ne sait pas encore très bien. Ce serait intéressant de savoir dans quelle région ça démarre pour essayer de protéger le cerveau. Parce qu'on peut protéger le cerveau, par exemple, en le refroidissant.
Mais, pour ne pas qu'il y ait cette explosion finale,
voilà,
et pour pouvoir revenir à la vie.
Voilà. c'est comment est-ce qu'on pourrait retarder cette issue fatale. Mais pour le moment, on est juste à des cas, quelques cas d'observation.
Donc et c'est lié aussi à l'avancée des recherches sur le coma, toutes ces questions-là. C'est-à-dire que quand il y a encore un peu de conscience, il y a aussi pas mal de recherches de ce côté-là qui ont permis d'avancer sur ces états limites.
On essaye de comprendre finalement, c'est ce qu'il disait Albert Dupontel, prévenez. Donc on essaye de voir comment on pourrait prévenir, savoir, enfin, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir. Mais c'est un courant de recherche nouveau, effectivement, qui
permet... Sur les signes avant-coureurs de la mort, si vous consacrez un article, là, ça, c'est extrêmement intéressant aussi.
La chose la plus surprenante, c'est qu'on observe que dans 46% les personnes qui ont une perte d'odorat ont 46% de chances, de risque en plus, de mourir dans les 10 ans. Donc, il y a un lien qu'on n'explique pas, qui est juste une corrélation entre la perte de l'odorat et le risque de mourir. On a allé plus
l'odorat
loin.
L'odorat qui est le premier et peut-être un des derniers sens aussi.
On perd un sens. Alors on a vu, on a identifié des biomarqueurs aussi dans le sang, aussi qui s'ils sont plus présents, c'est l'université néerlandaise qui a montré ça, ils ont identifié 14 biomarqueurs qui traduisent une augmentation du risque de mourir dans les 5 à 10 ans à venir. Mais bon, tout ça reste très empirique. Maintenant, on essaye aussi avec des logiciels d'intelligence artificielle de mêler plein de données génomiques.
On n'en est pas santé. Du tout à prévoir ni la date, non, ni l'heure de la mort, mais on en est à prévoir un peu les risques, peut-être, pour essayer de...
Ouais, surtout que ça, c'est des choses qu'on fait à l'échelle d'une population, donc ce qui est vrai pour un grand groupe de personnes
ne sera pas vrai forcément individuellement.
Voilà, exactement.
Et il y a aussi, dans ce dossier qui est énorme, hein, il faut vraiment le lire pour se faire une vraie idée, il y a aussi, la recherche s'intéresse aussi aux expériences de mort imminente.
Ah oui, alors la mort imminente, je vous rappelle ce que c'est cette sensation qui est décrite dans beaucoup de récits, il y a beaucoup de livres qui ont été consacrés à ça, beaucoup de films aussi, de gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, qu'on a réussi à réanimer, et qui ont eu l'impression, durant ce laps de temps, de flotter un peu au-dessus de leur corps, de voir une lumière au bout du tunnel, une sensation de bien-être, ou parfois au contraire de mal-être, de rencontrer des proches disparus. On voit ça lors d'arrêt cardiaque, de trauma cérébral, de cas de chirurgie. Et on a découvert que ce qu'on pensait être des cas tout à fait isolés, en fait, il y a pas loin d'une personne sur 10 qui aurait expérimenté ça. Alors ça, c'est un test qui a été fait parce qu'il y a un certain nombre de critères qui peuvent définir qu'on a vécu réellement une expérience de mort imminente.
C'est beaucoup plus courant déjà que ce qu'on imaginait, bien sûr.
C'est courant, ce chiffre, j'en reviens toujours pas, mais j'ai posé la question un peu autour de moi, effectivement, alors de toute façon totalement non scientifique, mais effectivement, c'est pas si rare que ça.
Et là, avec en plus les comas, aujourd'hui les techniques qui permettent de faire revenir les gens,
revenir
peut-être
les gens plus tard,
on le sait plus.
Donc là, l'origine du phénomène, on la connaît pas bien, mais on arrive à les provoquer, ces expériences de mort imminente, en injectant soit un anesthésiant qui s'appelle la kétamine, soit un psychotrope, le DMT. On arrive à avoir des situations dans le cerveau qui sont semblables à celles qui se passent dans le cas d'un arrêt cardiaque et à faire vivre à des gens des expériences de mort imminente.
Alors là, ça donne pour les étudier, hein, c'est pas pour s'amuser, on est d'accord.
Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, sur ce feu d'artifice final, c'est que ces molécules-là ou des molécules proches sont impliquées. Donc en fait, dans cette phase 5 à 10 minutes après l'arrêt respiratoire, il se passe quelque chose dans le cerveau dans lequel il y a ces expériences totalement inexpliquées qui se produisent.
Ce que la science sait de la mort, dossier à découvrir pour tous les vivants que nous sommes dans ce numéro de novembre de Science et Avenir, dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir, je vous le rappelle, chers amis auditeurs à l'esprit libre et curieux.
Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas, quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi, quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse, quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute, pour me faire une beauté ou pour une cigarette, juste encore une minute, juste encore une minute, pour un dernier frisson, pour un dernier geste, juste encore une minute, juste encore une minute, pour ranger les souvenirs avant le grand hiver, juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute, tout entière, tout à fait, dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute 60 petites secondes pour ma dernière minute.
la dernière minute de Carla Bruni sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. C'est à l'urgence climatique que vous consacrez le gros dossier de la recherche, Philippe Pageot, en donnant la parole aux chercheurs et aux chercheuses co-auteurs des derniers rapports, notamment rapport Sol et climat du GIEC. Il y a urgence, mais il y a aussi des pistes de recherche, notamment au sud. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Vous citez Saint-Exupéry en ouverture de ce dossier climat, faire face à l'urgence, Philippe Pageot.
Oui, alors ça ne va pas bien. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne va rien apprendre de nouveau là-dessus. Enfin, en tout cas, ça va être c'est un résumé de ce qui se passe. Mais on a voulu faire le point parce que cette année, il y a eu quand même 3 rapports spéciaux du GIEC qui ont été publiés. Enfin, c'est l'année dernière.
C'est le groupe d'experts internationaux sur le climat.
Le groupe d'experts internationaux sur le climat, là, mandaté par l'ONU, avec des experts de chaque domaine. Donc il y en a eu un rapport sur l'augmentation de température à 1,5 degré, la comparaison entre ce qui se passait, si ça augmentait de 1,5 degré ou 2 degrés en 2100. Un gros rapport donc, qui est sorti cet été sur l'état des sols et sur l'alimentation. Et un rapport sur
les océans
et les glaces qui est sorti ce début d'automne. Voilà. Donc on a voulu faire un petit peu le point là-dessus.
Écouter les scientifiques, écouter notamment ceux du Sud, hein, vous consacrez à propos du rapport sur les sols hein, en lien avec l'alimentation, il y a un papier très intéressant écrit très inspirant par le professeur Chekmbo, c'est ça, qui dirige une plateforme de recherche pour Futur Africa.
Exactement, Chekmbo, c'est un ancien chercheur sénégalais qui travaille à l'université de Pretoria et donc qui travaille aussi
en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud. Qui travaille donc pour cette plateforme. Et c'est un des co-auteurs du rapport sur les sols et sur l'alimentation. Et il s'est intéressé en particulier au problème de la sécurité alimentaire. Parce que c'est vrai que le constat est quand même assez accablant. D'une part, les rendements des cultures qui diminuent. Hein, ça, c'est des choses qu'on observe. Les zones arides qui augmentent aussi, 1% de plus, 1% de plus de zones arides par an depuis une cinquantaine d'années, une érosion des sols plus importante, une déforestation, donc pour vous donner une ordre de grandeur, la déforestation, la perte du couvert arboré en 15 ans, c'est l'équivalent de la surface de l'Inde. Donc, je ne sais pas si vous voyez
oui,
ce que.
C'est énorme. On va y revenir à la forêt et aux arbres.
Voilà ce que ça représente, ouais, on va y revenir. Et donc, vis-à-vis de l'alimentation, il y a une sorte de cercle vicieux. Hein, parce que d'une part, la course à la satisfaction alimentaire affecte le climat. Et puis, si nos modes de production et de consommation n'évoluent pas, eh ben, le changement climatique mettra en danger la sécurité alimentaire mondiale. Donc, du coup, voilà, cercle vicieux, il faut s'en sortir. Et donc c'est ce à quoi s'est intéressé ce rapport du GIEC et l'équipe autour de Chekmbo.
Parce qu'il y a des pistes quand même, il y a voilà. des pistes radicales, mais il y a des pistes.
Des pistes, voilà, des solutions. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle une approche intégrée multi-échelle, donc des choix assez complexes, parce qu'évidemment, il n'y a pas de solution unique, ça ne se décline pas de la même façon à l'échelle nationale, régionale, locale, internationale. Voilà. Et il y a des pistes, alors on peut donner quatre axes effectivement stratégiques qui ont été mis en évidence. Donc premier axe, réduire les pertes et les gaspillages qui sont assez énormes. Deuxième axe possible, changer les habitudes alimentaires. Donc ça, vous savez que le régime alimentaire riche en viande, en glucides que nous avons est pas très bon pour le climat parce que ça nécessite effectivement des surfaces agricoles énormes. Et donc c'est une des pistes qui est abordée. Troisième piste, combler les écarts de rendement de culture dans le monde, parce que les rendements ne sont pas les mêmes, justement, entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et enfin.
Et c'est là où c'est le plus vulnérable, on a le plus besoin, bande intertropicale, où les rendements seront le plus affectés.
Voilà. Et dernier, un axe stratégique, adopter des pratiques agricoles durables. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en œuvre en Afrique, au niveau local. Hein. Par exemple. Le Burkina Faso et le Sénégal ont mis en place des stratégies de gestion des plans d'eau pour obtenir une production agricole supplémentaire pendant la saison sèche. Ça, c'est des choses qui existent, avec des bassins de rétention et de la micro-irrigation. Il y a d'autres exemples. Par exemple, dans les régions sahéliennes, pour lutter contre la sécheresse, on a une technique de culture qui s'appelle le ZAI, hein, qui consiste à concentrer l'eau et la fumure. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui sont...
Beaucoup de pistes de recherche aujourd'hui dans le Sud, justement, voilà. qui devraient être mises en œuvre, mais qui, en tout cas, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus.
Beaucoup de chercheurs, donc sur ces problèmes, effectivement, de rendement, mais également sur les problèmes de structuration des marchés locaux, Typiquement au Mali ou au Burkina Faso, évidemment, la production de coton n'est pas compétitive par rapport aux États-Unis qui est abondamment, grandement subventionnée. Et donc, tout ça, ça marchera. Effectivement, il y a des choses qui peuvent marcher au niveau local. Mais s'il y a des règles internationales qui, justement, ne favorisent pas l'un par rapport à l'autre. Et donc là, on sent bien que c'est les limites de l'action locale. Il faut que derrière, les gouvernements s'en parlent de ce problème.
Les chercheurs, il faut écouter les chercheurs et les scientifiques, mais après, ce sont des questions évidemment éminemment politiques. Comment rendre notre futur possible? Donc, face à l'urgence climatique, dossier complet du nord au sud à lire et à suivre dans ce numéro de La Recherche où nous avons, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner avant que le monde ne soit trop chaud. Tiken Jaffa Coli et Soprano sur RFI, le monde est chaud.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je suis à bout de souffle. Je vois les flèves faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Le monde est chaud, Tiken Jah et Soprano sur RFI. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse sur notre petite planète qui a chaud, mais où, heureusement, il y a encore des arbres. Pourquoi et comment les arbres peuvent nous sauver? C'est le dossier de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll. Pourquoi et comment les arbres sont nos alliés, nos protecteurs à protéger? Nous, les arbres, c'est aussi le titre d'une exposition qui remporte un grand succès à la Fondation Cartier en ce moment à Paris, prolongée d'ailleurs jusqu'au 5 janvier en soutien aux peuples amazoniens qui défendent leurs arbres face aux feux de forêt. Nous, les arbres, extrait de l'interview de l'anthropologue Bruce Albert, commissaire de cette exposition, au micro de Sarah Tisser.
Toutes les recherches depuis 20 ans nous ont appris que les arbres communiquaient entre eux, qu'ils avaient une sensibilité, qu'ils avaient de la mémoire, qu'ils régulaient le climat, enfin toutes sortes de propriétés qui étaient parfaitement inconnues. Depuis Aristote, on vit sur une hiérarchisation des êtres vivants avec tout en bas les végétaux, les arbres. Et les arbres, les végétaux ont toujours été l'objet d'un mépris souverain. Donc il y a eu un renversement de perspective complet depuis une vingtaine d'années. Au moment où on les détruit systématiquement sur l'ensemble de la planète.
Nous les arbres, à voir à la Fondation Cartier jusqu'au 5 janvier. Comment les arbres peuvent nous sauver? C'est la une et c'est le dossier de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll, avec d'abord l'importance de préserver... les arbres, c'est la planète des arbres, la Terre.
Oui, tout à fait. On avait tendance à l'oublier ces dernières années. Et là, cet été, avec les incendies en Amazonie, justement, il y a eu une sorte d'émotion qui s'est propagée dans le monde entier. Et c'était assez passionnant, assez intéressant de voir qu'on peut prendre soin des arbres. Parce qu'effectivement, ils peuvent nous sauver. En fait, ils font partie, en tout cas, de la solution pour aider plusieurs crises, qu'elles soient climatiques ou on parlait tout à l'heure de l'agriculture et même peut-être des matériaux. C'est assez passionnant. C'est une enquête d'Yves Siama dans notre une de ce mois-ci. En fait, effectivement, il va falloir qu'on compte sur les arbres pour nous aider. Alors la première chose que l'on peut se demander sur les arbres, ils peuvent bien sûr stocker le CO2, donc participer à la réduction du CO2, des gaz à effet de serre, bien sûr. Imaginez qu'un arbre de 20 mètres à peu près, il peut stocker environ 6 tonnes de CO2. C'est incroyable. En fait, ça correspond à 4 ans de rejet de CO2 pour un humain.
Un arbre peut stocker 4 ans de rejet d'un humain.
Oui, ouais, tout à fait. Et par rapport...
Et il y a 3 000 milliards d'arbres sur Terre, en gros, c'est ça ?
C'est tout à fait ça, effectivement. Il y en a à peu près 50% de moins qu'avant notre civilisation. Mais bien sûr, on a besoin aussi de terres agricoles, donc on ne peut pas replanter des arbres partout, mais quand même, les chercheurs ont sorti des études et ils ont dit qu'on pouvait à peu près planter... 0,9 milliard d'hectares en plus d'arbres. Et ça, rien que ça, en fait...
Ça serait énorme.
Ça serait énorme, ça pourrait permettre de capter environ les 2/3 de l'excédent de CO2 que l'on a en plus dans l'atmosphère. Rapport à l'époque pré-industrielle.
Donc c'est une des pistes et une des solutions. C'est certainement pas de les laisser brûler comme c'est le cas en ce moment en Amazonie ou même en Californie ou ailleurs. Mais vous le disiez aussi, Thomas Cavalier-Foll, les arbres, c'est pas juste pour absorber le CO2, c'est aussi un matériau, le bois, qui pourrait nous être très utile. Et ça vient des arbres.
Ça vient des arbres. En plus, d'autant que si jamais on plante un arbre et qu'il meurt ensuite et qu'on le laisse... pourrir, on va dire, dans la nature, comme ça, il va relarguer son CO2, donc ça ne servira à rien. Il faut au contraire l'utiliser. Et de plus en plus, on voit que le bois est un des matériaux les plus nobles et les plus incroyables qui est possible de faire. Ces temps-ci, il y a des immeubles, par exemple à Londres ou à Tokyo, qui vont être faits qu'en bois et qui vont faire 300 mètres de haut, parce que le bois est un matériau assez incroyable, en fait. On commence à trouver des techniques aussi pour le travailler, pour le rendre 12 fois plus solide qu'il n'est maintenant, ce qui fait qu'il est aussi solide que l'acier, tout en étant, bien entendu, beaucoup plus léger. En fait, ça permettrait d'être un matériau assez incroyable.
Donc, les arbres sont nos alliés. Ils sont nos alliés pour plein de raisons. Ils étaient là avant nous.
Il faut qu'ils soient là après nous.
Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a aussi quelque chose dans la fin de l'article qui est très, très joli sur les arbres sont un peu des aliens, mais qui pourraient nous aider à combattre, enfin, à rester sur Terre. C'est vraiment nos amis, les arbres, quoi, sans être bisounours. Hein.
Vous avez parlé du mot alien. Je ne crois pas avoir déjà vu ou déjà entendu ou déjà lu un auteur de science-fiction décrire un alien plus étrange encore que ne l'est l'arbre. En fait, l'arbre, c'est une créature totalement extraordinaire. Donc, on n'arrive même pas à imaginer. On entendait le monsieur tout à l'heure de la Fondation qui parlait, effectivement, on a découvert une sensibilité. Il y a
une communication
incroyable. Enfin, voilà. Ils font des symbioses avec toute la nature autour d'eux, tous les micro-,
ils font profiter toute la nature autour d'eux.
C'est vraiment merveilleux. Et puis, même l'arbre en soi est presque une population. Vous savez, chaque bourgeon peut contenir en lui-même des nouvelles mutations. C'est-à-dire que chaque branche est différente l'une de l'autre. C'est vraiment un être passionnant.
Êtres immobiles et inspirants.
Immobiles, inspirants. Et puis de toute façon, on sait très bien, ils ont toujours été là. Même si on a tendance à l'oublier, ils sont maîtres du temps. Comme nous, on est maîtres de l'espace. En fait, l'arbre, il sera là, effectivement, avant nous, après nous. Et puis, dans toutes les cultures, il y a eu énormément de passion pour l'arbre. C'est par exemple l'arbre-monde, Yggdrasil, dans la culture scandinave, dans la mythologie scandinave. Il faut se rappeler ça. Il faut faire une nouvelle alliance avec les arbres.
Nouvelle alliance avec les arbres, s'en inspirer hein, comme un autre mode de vie, manière d'habiter la terre. On n'a pas fini de parler des arbres, on pourrait en planter, en faire surgir encore des milliers. Les arbres, nos alliés, dossier très inspirant. Allez dans ce numéro de Science et Vie dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner à l'ombre de vos arbres, chers amis auditeurs.
Tu fais du sport,
c'est très bien.
Tu fumes des clopes,
c'est pas bien.
T'apprends l'anglais,
c'est très bien.
Au cabinet,
c'est moins bien.
Tu roules un Porsche,
c'est très bien.
Tu vas trop vite,
c'est pas bien.
Tu fais pipi,
ça va.
À la piscine,
c'est pas cool.
Plan de l'arbre, plan de l'arbre, plan de l'arbre, plan de l'arbre, c'est la vie.
Oh yeah.
Plan de l'arbre, plan de l'arbre, plan de l'arbre, plan de l'arbre aujourd'hui.
Oh yeah. Tu manges du bio?
C'est très bien.
Au McDo?
T'as tout faux.
Tu pique-niques?
C'est très bien.
T'appelles le flic?
C'est pas cool.
Tu dis je t'aime?
C'est très bien.
Tu votes la peine?
C'est pas bien.
Tu montes tes fesses?
C'est marrant.
À la messe?
C'est gênant.
Blondana, 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 c'est la vie. Oh yeah. Blondana, 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 aujourd'hui. Oh yeah. Blondana, 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 blondana,
plante un arbre et tu le verras pousser avec la chanson du dimanche sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse au-delà même de notre système solaire, allez dans la recherche de ce mois de novembre, Philippe Pageot, un entretien avec le tout récent prix Nobel de physique Michel Mayor, prix Nobel pour la découverte des toutes premières exoplanètes, et qui vous a accordé un entretien.
Oui, alors en fait, on a un peu triché parce que comme c'était un petit peu juste pour après l'annonce, on avait un entretien qu'on avait déjà fait avec lui, qu'on a mis à jour en fait. Voilà, on a profité de l'occasion.
Vous l'avez appelé pour voilà. un peu rajouter voilà. quelques.
Et en fait, tout était encore valide. On était très contents effectivement parce que ça fait quand même très très longtemps. Et j'imagine que Philippe, mon camarade, va dire la même chose. Ça fait quand même des années et des années qu'on se disait qu'il devrait voir le prix Nobel. Et enfin, cette année, c'était bon. Donc Michel Mayor et son étudiant en thèse à l'époque, Didier Queloz, qui en 1995 ont découvert effectivement cette première exoplanète autour d'une étoile de type qui ressemble au Soleil. En fait, en 92, il y avait eu des planètes découvertes autour de plus d'étoiles à neutrons, d'étoiles très denses, mais autour d'une étoile solaire, c'est 95. Et ça a complètement lancé ce domaine.
Oui, parce que c'est très étonnant. 95, première exoplanète hors de notre système solaire découverte, enfin ouais. Vue, observée, disons. Et puis depuis, il y en a combien ? Il y en a
4 000. Plus de 4 000. On en découvre presque chaque jour maintenant des nouvelles. Et le truc étonnant, c'est que c'est un domaine. Toutes les agences spatiales du monde ont des missions qui visent à découvrir des nouvelles exoplanètes. Il va y avoir un satellite suisse, KEOPS, qui va être lancé au mois de novembre. Là, normalement, on n'a pas la date exacte, mais c'est fin novembre, début décembre. Il y a les Suisses qui ont un instrument qui est en train d'être mis au VLT. Tout à l'heure, on a parlé du VLT, donc un instrument qui s'appelle Espresso, qui est mis...
Capter les exoplanètes.
Les petites exoplanètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'au départ, les instruments étaient sensibles à des grosses planètes près de leur étoile. Et à mesure que le temps a passé, on était sensible à des planètes de plus en plus petites. Et maintenant, on est presque capable de trouver des planètes de type de la Terre. Et donc ça...
Et du coup, Michel Mayor, sa réaction à la fois face à ce prix et face surtout à ce que ça a amené, ces découvertes.
Il disait qu'on n'avait aucune idée de l'excitation que ça allait pouvoir déclencher. Et donc là, on arrive à ces planètes terrestres, peut-être avec de la vie autour. C'est quelque chose qu'on est en train d'explorer encore.
Entretien donc avec Michel Mayor, prix Nobel de physique, à lire dans la recherche. Alors on reste dans Ciel et Espace avec vous, Philippe Hénarejos, avec le portrait de l'homme qui a créé le programme spatial chinois, qui est assez intéressant, qui s'appelle Tian Xuechen.
Oui, c'est passionnant. Tian Xuechen est mort il y a 10 ans à peu près. Personne ne le connaît. Tout le monde connaît Werner von Braun qui a fait le programme lunaire américain. On connaît Sergei Korolev qui a fait le programme soviétique à l'époque. Eh bien, c'est l'équivalent, mais en Chine. Mais alors, il a une vie... totalement romanesque. C'est-à-dire que dans les années 30, il est arrivé de Chine aux États-Unis pour travailler au MIT. Il a participé à l'élaboration des premières fusées américaines. à l'élaboration d'un laboratoire que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle le JPL, le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena en Californie, qui a lancé énormément de sondes dans l'espace. Et puis évidemment, vous vous en doutez, à partir après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de Mao au pouvoir, le macartisme, il a quand même eu des problèmes, il a été emprisonné.
Et donc il est reparti en Chine.
Et du coup, quand l'interdit sur lui a été levé aux États-Unis, il a dit, bah, puisque c'est ça, je m'en vais, je retourne en Chine. Et à partir des années 55, il a contribué à fabriquer la première fusée chinoise, la Longue Marche 1, qui a fait de la Chine la cinquième puissance à envoyer quelque chose dans l'espace en 1970. Et depuis, tout le programme spatial chinois
est basé sur ce qu'il a construit.
Et il a continué à observer ça jusqu'au lancement des premiers astronautes chinois dans l'espace. C'est un récit vraiment étonnant.
Presque un polar, en fait. Enfin, ah, c'est un transfuge
dans les deux sens.
Qu'aujourd'hui, le programme spatial chinois nous intéresse. Ben, oui. Donc, à découvrir le portrait de ce méconnu qui a créé le programme spatial chinois, Tian Xuexun. Son portrait est donc dans Ciel et Espace. Et puis, on tient à rappeler à nos auditeurs, Philippe Hénarejos, le 11 novembre prochain, de se munir de lunettes, d'un petit télescope, de ce qu'on peut pour
jumelles,
observer.
Mais en tout cas avec des protections efficaces contre les rayonnements du soleil. Il ne faut pas regarder n'importe comment le soleil. Parce que si vous regardez le soleil à ce moment-là, à partir de 13h35 en France, il y a la petite planète Mercure qui va commencer à passer devant. C'est un tout petit point.
Mercure va passer devant le soleil.
Soleil, ça dure
il n'y a pas qu'en France, hein, ça va se voir dans le monde entier, au début en Afrique.
L'idéal, c'est l'Amérique du Sud qui peut voir du début à la fin le phénomène qui dure 5 heures. En Europe, on voit le début. Il y a d'autres continents qui voient la fin.
Donc rendez-vous en Amérique du Sud lundi prochain, le 11 novembre, pour voir Saturne passer devant le soleil.
Ben nous aussi. À travers les nuages. Voilà.
Mais on vous en reparlera, chers amis auditeurs, notamment sur notre site. Alors, il n'y a pas que des trésors hein, dans l'espace, il y a aussi beaucoup de bluffs. Thomas Cavalier-Foll, autour de possibles ressources spatiales. Un petit mot sur cet article dans Science et Vie.
Tout à fait, c'était censé être un peu la nouvelle ruée vers l'or. L'espace, avec tous ces astéroïdes ou même la Lune, était censé être gorgé de minéraux rares comme l'or, le platine ou encore d'autres comme l'hélium-3. Et donc, un peu, c'était censé être le Far West. En 2019, le Luxembourg et les États-Unis ont signé un accord pour pouvoir exploiter ces ressources. En 2010, tous les géants comme Google se sont mis derrière une entreprise qui était censée exploiter les ressources de l'espace. Et puis en fait, la réalité, elle est plus difficile que ça. Ça va être compliqué d'aller exploiter ces ressources.
Exploiter ces ressources,
déjà,
les ramener.
On ne sait pas si elles existent. Les ramener, ce sera très compliqué aussi. Et puis,
donc attention à l'info, à l'intox et au bluff sur les ressources spatiales. On voulait parler du blog. Je ne sais pas si on va avoir le temps, Mathieu Novak.
Ouais,
parce que le blog,
un petit teaser.
Oui, qui nous fait rêver dans Science et Avenir.
À la rédaction de Hashtag Science, notre nouveau magazine pour les jeunes, on a fait comme aux Zoo de Paris, on a adopté un blob. Qu'est-ce que c'est que le blob? Je vous invite à découvrir ça. C'est juste un être très, très bizarre. Une seule grande cellule qui s'étend, qui forme des grands réseaux qu'on n'a pas du tout étudié jusqu'à récemment et qui existe pourtant depuis 500 millions d'années. On vous tiendra au courant.
Le blog Défi et Lois du Vivant, c'est à lire dans Science et Avenir et vous en avez adopté un dans Hashtag Science.
Ouais, et on vous mettra des petites vidéos
à
sur notre site.
À faire à suivre. Merci Mathieu Novak, merci Philippe Pajot, Thomas Cavalier, Philippe Hénarejos. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs. Science et Avenir, La Recherche, Science et Vie, Ciel et Espace, magazine dont nous avons évidemment quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, ils sont pour vous. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale à bon entendeur. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur l'application RFI Pure Radio. Rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre. Oui, l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, dans une petite minute, le prochain journal. C'est pas du